Les enfants, est-ce que ça vous est arrivé un jour d'avoir une bonne note, je vous l'espère, ou bien d'avoir fait peut-être le plus beau dessin? Ah, c'est moi qui ai fait le plus beau dessin. Ou bien vous étiez dans une partie de football acharnée et vous avez marqué le but de la victoire. Est-ce que c'est une chose qui vous est déjà arrivée? Si ça vous est déjà arrivé, je pense que vous avez eu le désir, lorsque ça vous arrive, de pouvoir en parler, de rentrer à la maison. Papa, maman, j'ai eu la meilleure note. C'est moi qui ai marqué le but de la victoire. C'est mon dessin qui a été remarqué. Il y a une volonté, lorsqu'on a fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de pouvoir le partager avec d'autres. On a ce désir de le partager avec d'autres. Eh bien, voilà que, aujourd'hui, dans l'Évangile, on entend que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur une haute montagne et ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Jésus a été transfiguré devant eux. On nous dit son visage est devenu brillant comme le soleil. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Puis ils ont entendu la voix du Père. Une nuée lumineuse est descendue sur eux. Ils ont entendu cette voix du Père étonnante. Ça, ils ont vécu quelque chose qui n'est pas ordinaire. Et alors que dans leur cœur pouvait être peut-être le désir de descendre vite pour en parler, Jésus leur dit, vous n'en parlerez à personne. Oh, c'est pas ce qu'on avait prévu. Vous n'en parlerez à personne. Enfin, vous n'en parlerez à personne tant que le Fils de l'homme, il parle de lui-même, tant que je ne serai pas ressuscité d'entre les morts. Ils comprennent pas très bien ce que ça peut vouloir dire, ressusciter d'entre les morts, réveiller d'entre les morts, littéralement. Mais vous voyez que c'était pas naturel ce qu'on leur demande par rapport à l'élan qui pouvait abriter leur cœur. Non, je voudrais m'interroger sur vous à pourquoi est-ce que le Christ leur demande cela. Parce qu'a priori, c'est pas un acte de cruauté. Si, t'as fait un truc, mais personne ne doit savoir. Non, c'est qu'il y a quelque chose pour la vie du monde que Jésus veut mettre en place. Mais on va essayer de comprendre ça. Mais pour comprendre pourquoi Jésus leur demande de ne pas parler tout de suite, je voudrais revenir avant sur cette expérience qu'ils ont faite sur la montagne. Donc voilà que sur la montagne, on nous dit, Jésus est transfiguré, son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et on nous dit que Pierre, là, il est émerveillé. Il y a cette parole de Pierre qui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Et il voudrait prolonger ce moment. Mais ça, on le comprend. Il y a peut-être des moments où vous êtes dit aussi, « C'est tellement bien ce qu'on est en train de vivre, je voudrais que ça dure toujours. » Parfois, on s'était promené en forêt, il y a le soleil qui passe parmi les arbres, et c'est beau, et on voudrait que ça dure. Ou parfois, c'est le fiancé qui retrouve sa fiancée après un moment d'absence. Le moment, ça y est, oui, il ouvre la porte, elle est devant lui. Il y a une joie, on voudrait que ça dure. Ou parfois, c'est un petit peu plus simple, je suis face à un gâteau que j'aime beaucoup, là, je suis en train de le manger, mais, j'arrive à la fin du gâteau. Ah, mais j'aurais bien aimé que ça dure encore. Il y a des choses, on voudrait que ça dure. Et là, combien plus Pierre, devant ce qu'il voit, il voudrait que ça dure. Alors il propose, on va dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie pour que ça se prolonge. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Pierre voit Jésus transfiguré, il ne voit pas simplement, on pourrait dire, la puissance de Jésus qui est révélée, qu'il est Dieu et que ça se laisse voir. C'est l'humanité de Jésus qui devient rayonnante. Et donc si c'est l'humanité de Jésus qui devient rayonnante, c'est une promesse pour notre humanité. C'est notre humanité qui va être rayonnante de la lumière de Dieu, de la vie de Dieu. Ça vous est déjà arrivé de vouloir que, justement, votre humanité, elle puisse être rayonnante? Parfois, il y a quelqu'un qui pleure à nos côtés. On voudrait pouvoir le consoler. Et on voit, nos mots sont un peu maladroits, sont un peu courts. Si on avait cette lumière de Dieu qui peut toucher jusqu'au cœur. Parfois, c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est dans l'épreuve ou qui est malade, comme on voudrait que la main qu'on pose sur lui puisse le guérir, puisse lui donner toute force, puisse lui redonner la joie. Et voilà que Jésus est en train de manifester devant eux que notre humanité connaîtra cette puissance, que notre humanité connaîtra cette puissance. Vous voyez, il y a un signe tout simple, mais qui est vraiment très important. On nous dit que les vêtements de Jésus deviennent aussi brillants, enfin blancs, comme la lumière. Parce que ce qui rayonne à la base, c'est le corps de Jésus, son visage, son corps. Et voilà, on pourrait dire que son corps est contagieux de la lumière de vie. Et souvent, nous, c'est plutôt le contraire. Là, en plus, en plein dans l'actualité, on est contagieux d'un virus. Pas de chance. Là, c'est l'inverse. Par le Christ, nous devenions contagieux de la vie même de Dieu. Donc il fait vraiment une expérience extraordinaire. Il y a une promesse de vie pour notre humanité qui est là. Mais ils font une deuxième expérience. C'est lorsque la nuée lumineuse descend sur eux, ça devait être impressionnant une nuée lumineuse, hein. Si vous voulez avoir un peu une image, rappelez-vous la dernière fois que vous avez vu un orage avec plein d'éclairs. Une nuée, c'est des nuages lumineuses, voilà, traversées par les éclairs. Et une nuée lumineuse qui descend sur eux, ils entendent cette voix. « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Et on nous dit à ce moment-là qu'ils furent saisis de crainte. Pourtant, on pourrait dire, la parole n'est pas menaçante, hein. C'est pas « prenez garde, je vais vous taper ». Là, on comprendrait, non, je me mets à terre pour essayer d'éviter les coups. Non. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Mais ils sont saisis de crainte. Alors, je vous posais une petite question, je vous laissais juste 2 secondes pour y répondre. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils sont saisis de crainte? Ah, vous avez eu vos 2 secondes pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils sont saisis de crainte? Et donc, ce n'est pas une menace, mais c'est parce qu'ils sont face à quelque chose de grand. Je ne sais pas si vous avez eu déjà cette occasion, j'ai peut-être déjà parlé de ça, mais si vous avez marché à côté d'un éléphant, bah, il est très grand, il n'est pas méchant l'éléphant, mais si jamais il fait un pas de côté, vous vous dites, je ne vais pas être très à l'aise. Il n'est pas méchant, mais il est très grand, et je prends conscience du coup de ma vulnérabilité. Où je me suis rendu compte une fois... J'étais auprès des chutes du Niagara. Je dis donc, qu'est-ce que c'est haut? Il vaut mieux pas glisser. Mais c'était magnifique, mais en même temps, je prenais conscience de ma vulnérabilité, de ma fragilité face à la grandeur qui était là. Eh bien, eux aussi font cette expérience de la fragilité, de la vulnérabilité face à la révélation du Père. Ils font une double expérience, cet émerveillement devant Jésus transfiguré, devant la promesse qui est faite à notre humanité, et une expérience de leur fragilité. Et c'est utile de faire aussi l'expérience de notre fragilité. Comment ça? Généralement, on n'aime pas trop, quoi. Justement, on voudrait apparaître un peu fort, plus fort. Mais être lucide sur qui nous sommes vraiment, c'est en fait très utile, parce que ça va nous éviter d'être présomptueux, de faire des choses qui vont en fait bien au-delà de nos forces, qui sont folles, d'entraîner des gens peut-être avec nous dans des expéditions qui sont folles et mortelles. Avoir une lucidité sur ma vulnérabilité, c'est savoir aussi de quoi j'ai besoin pour avancer. Ben, si je suis frileux, il faut que je prenne quelque chose qui me tienne chaud, sinon je ne vais pas être bien. Si on va marcher longtemps, il faut peut-être que je prenne un encart, un goûter pour pouvoir retrouver des forces. J'ai conscience de ma lucidité, si je n'ai pas conscience de ça, mais je vais tomber sur le chemin. Donc, il leur donne de prendre conscience de leur vulnérabilité afin qu'ils ne se trompent pas, afin qu'ils aient vraiment les moyens d'avancer lucidement, qu'ils ne se prennent pas pour des surhommes, mais qu'ils avancent, oui, vraiment comme des hommes munis de la grâce de Dieu. Donc, 2 grandes expériences. De l'émerveillement et une conscience une lucidité de leur fragilité. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus leur dit de ne pas en parler maintenant? Vous êtes toujours vivant? Ah, ça c'est bien. C'est bien. Généralement, il faut que je pose deux fois la question pour avoir la réponse. Là, ils sont toujours vivants. Je ne la pose pas au reste de l'assemblée. J'espère que le oui est aussi présent. Pourquoi est-ce qu'il leur demande de ne pas le dire? En fait, Jésus, vous voyez, il est en train de leur dire à la fois, ne le dites pas tout de suite, mais vous aurez à le dire plus tard. Donc il est en train de mettre quelque chose dans leur mémoire. Il faut que vous vous en souveniez. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. Il est en train de structurer leur mémoire. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. Vous allez devoir le garder, en faire mémoire, un peu comme une graine qui va se développer en vous. Et vous aurez à le redire. Il les oriente aussi vers l'avenir. Soyez vigilants sur l'avenir, il y a quelque chose qui doit se passer, et c'est là que vous interviendrez. Vous aurez un rôle. Vous aurez un rôle grâce à cette expérience que vous avez vécue. Jésus est en train de structurer leur mémoire. Alors on peut dire, structurer la mémoire, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire, mon père. Qu'est-ce que ça veut dire, là, structurer la mémoire? La mémoire, c'est très utile pour savoir quel est le chemin qu'on a parcouru. Vous savez, parfois on marche, on a une carte, et c'est intéressant de voir sur la carte, tiens, qu'est-ce qu'on a déjà parcouru? Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour aller jusqu'au bout? La mémoire, c'est notre carte intérieure. Si on n'a pas de carte intérieure, si on n'a pas de mémoire, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas ce qu'on a avancé, on ne sait pas si on a progressé. Et notre mémoire, c'est aussi quelque chose, j'allais dire, qu'il faut parfois apprivoiser. Parce que parfois, dans notre vie, on a des passages de notre vie qui sont plus des enregistrements qu'une mémoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous criez dans un micro et que vous avez enregistré, vous repassez l'enregistrement, vous reprenez le cri. Et parfois, il y a des éléments, parfois traumatisants de notre vie, qui sont des enregistrements, mais pas de la mémoire. Ça me revient avec la même violence. Alors, parfois, c'est pas un traumatisme, mais si vous avez fait l'expérience un jour de pas réussir à vous endormir à cause de ce que vous aviez vécu dans la journée, ou de pas réussir à vous endormir à cause de ce que vous savez qui vous attend le lendemain, vous avez une preuve que votre mémoire, là, elle n'est pas docile, parce que c'était le moment de dormir, c'était le moment de reprendre des forces. La mémoire, quand elle est structurée, justement, elle nous permet de vivre. Elle n'est pas un cri qui nous déchire. La mémoire, elle nous permet de tirer parti des ressources que l'on a acquises. Jésus est en train de structurer leur mémoire pour que leur mémoire devienne un outil dans leur vie, un lieu où puiser la grâce de Dieu reçue, un lieu à partir duquel transmettre la grâce qu'ils ont reçue. C'est donc très important ce qu'il est en train de faire. Eh bien, peut-être que, en ce dimanche, nous aussi nous allons attirer parti de ce que nous avons vu vivre à Pierre, Jacques et Jean à la Transfiguration. Il y a peut-être un petit exercice à faire. Et moi, quand est-ce que j'ai été émerveillé de l'action de Dieu? Essayez de me souvenir de ça. Quand est-ce que j'ai été émerveillé de l'action de Dieu? Mon souvenir, ça peut être, peut-être que c'est un jour dans la prière où la présence de Dieu m'est apparue claire, joyeuse. Peut-être que c'était pendant une célébration, j'ai été heureux d'avoir participé. Ou peut-être que c'est à travers un acte d'amour de quelqu'un. En ce jour-là où il m'a pardonné, j'ai su que Dieu existait. Ce jour-là où il a fait attention à moi, il est venu à moi, alors que peut-être tous les autres m'avaient pas vu. J'ai su que Dieu prenait soin de moi. Faire mémoire d'un moment où j'ai vu, où j'ai goûté cette présence de Dieu qui est source de l'amour. Mais puis faire mémoire aussi, peut-être, d'un moment où dans ma vie, j'ai éprouvé cette fragilité, cette lucidité sur ma fragilité. Et avec ces deux souvenirs, de dire, eh bien, Seigneur, comme tu as permis à Pierre, Jacques et Jean de garder cette expérience pour structurer, guérir, former leur mémoire, viens aussi structurer, guérir, former ma mémoire à partir déjà de ces deux événements. Que moi aussi je puisse être un disciple comme Pierre, Jacques et Jean, que moi aussi je puisse te suivre sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur Jésus, accorde-nous l'émerveillement de la vocation que tu nous offres. Accorde-nous la lucidité sur notre fragilité. Imprime en notre mémoire ces deux événements et si nécessaire, guéris-la. Nous voulons en ce carême trouver notre allure de marche pour te suivre jusqu'au royaume du Père. Amen.